gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
C'est 22h, c'est la causerie sur Radio Canu et nous avons un bel effet écho et cathédrale. Tu aimes ça toi aussi, hein? Moi j'adore. Regarde. Ah, oh, ça y est, c'est parti. Bon, bah, c'est dommage. Voilà, bonsoir. Alors, c'est Radio Canu, c'est le 102.2, c'est RadioCanu.org, c'est la causerie, c'est dimanche, c'est 22h. Et au micro, c'est Fab et je suis accompagné de Jean-Yves.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et nous sommes que tous les deux et Jean-Yves fait la technique et il est en train de transpirer comme rarement. Je l'ai vu transpirer. Mais en tout cas, pour nous, c'est sympa d'être là. Alors, si tu veux nous écrire, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Si comme ça, tu t'es dit, tiens, je voudrais réécouter toutes les émissions parce que c'est quand même la 401e, et que comme tu n'as rien à faire cet été, et ça je peux le comprendre, donc du coup tu dis, bon allez, à la fraîche, je me réécoute toutes les causeries, c'est sur blogs.radiocanu.org/lacauserie, blogs.radiocanu.org/lacauserie, et en plus, on est sur des trucs de diffusion en streaming. Vous savez, c'est un truc moderne, puis pareil, ça passe par internet, tout ça, enfin, bref, c'est sympa.
Tu veux dire l'axe du mal, quoi.
Ouais. Je veux dire, nous sommes vendus à Satan. Enfin, tout ça.
Ouais, c'est ça, c'est les ondes. Hein.
Tous ces trucs-là. Bon, en tout cas, on va faire quand même un coucou aux copains et copines de Dead Moon Knight, hein, qui étaient juste avant nous. Et leur souhaiter, ben, du coup, de bonnes pauses estivales, peut-être vacances s'ils en prennent, parce qu'ils reviendront, donc, comme ils vous l'ont dit, sûrement fin août, début septembre. Et ben, nous, on s'en ira sûrement fin août, début septembre pour revenir après. Donc, voilà, vous savez tout de la vie de Radio Canu.
Ouais, c'est passionnant, n'est-ce pas? Je voulais juste, avant que je lance le, enfin, pas que je te lance le micro d'ailleurs, tu l'as devant toi, j'ai pas besoin de te l'envoyer, mais juste aussi rappeler que si tu as envie d'un joli petit stickers de la causerie, un joli petit autocollant pour décorer ton frigo ou je ne sais quel autre.
Ta voiture, ta moto, ta mobilette, ta 103 SP.
Ouais, ou des poteaux, enfin bref, tout ce que tu veux. Mais pareil, t'envoies un petit mail à la causerie et puis on s'arrange pour t'envoyer ça. Ben voilà. Voilà. Eh bien, on va quand même pas trop tarder. C'est Fab qui va prendre le crachoir et toi, tu vas nous parler de la météo, quoi.
Ben ouais. Vous avez remarqué, il pleut. Voilà. Non, bah alors je vais vous parler de la météo, mais bien évidemment, je vais pas vous parler que de la météo. Je vais plutôt vous parler plus largement de problématiques qui vont nous interpeller dans les années à venir. Alors, donc vous avez pu remarquer que dans plusieurs endroits dans le monde, ces derniers jours, les catastrophes liées à des pluies inhabituelles sont plus que fréquentes. Hein, que l'on parle de l'Allemagne ou de la Belgique, des Pays-Bas, de la Chine, de l'Inde, ou que l'on remonte dans les derniers mois avec l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Est, le nombre de morts et les dégâts liés aux intempéries sont assez importants et bien plus importants qu'ils ne l'étaient les années précédentes. Alors il ne s'agit pas ici de phénomènes inexpliqués, hein. C'est bien ce qui motive d'ailleurs ma chronique, parce que nous étions prévenus, nous savions que cela allait arriver, mais nous avons presque collectivement refusé de l'imaginer, comme toujours, voilà. Alors, je vais vous rappeler simplement que dans la causerie, nous avons souvent présenté ce qu'il ressortait des rapports du GIEC et d'autres sources scientifiques. Hein, on ne s'est pas arrêté au GIEC, on vous en a sorti pas mal quand même. Nous avons pris le temps de poser le fait que les scénarios étaient posés, effectivement, et que malheureusement, il était inévitable que les catastrophes se produisent. Il ne s'agit pas pour moi, hein, ce soir, de vous dire « Ah, vous l'avez bien dit hein, !» parce que...
Bien fait.
Non, pas du tout. Non. Parce que franchement, j'aurais pas l'indécence, hein, comme certains, de faire cela sur le dos des morts. Parce que voilà, il y a quand même des morts et des gens qui sont déplacés Français qui perdent toute leur vie. Non, ce que je veux rappeler, c'est que si une émission de Radio Canu, hein, dont les animateurs et animatrices ne sont pas salariés, peut décortiquer les rapports des différentes instances scientifiques, hein, il me semble quand même plus que probable que ceux qui sont élus peuvent le faire encore mieux que nous. Ils ont un peu le temps quand même pour le faire.
Oui,
voilà.
Ils devraient.
Alors oui, je dois dire que de voir le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, faire une sortie larmoyante sur le fait qu'il serait temps de faire quelque chose et plus pour limiter notre impact sur le climat, a de quoi me faire sourire, mais quand même jaune. Voilà. Vraiment, là, c'est un peu dur à passer. Les faits sont très emmerdants, hein, parce qu'ils ont décidé, comme souvent, de suivre les prédictions des scientifiques. Ah, ça, les faits, c'est chiant, c'est la réalité, c'est un peu embêtant. Ah oui, alors, vous savez, hein, ces scientifiques, c'est souvent les gens qui sont en ce moment méprisés, vilipendés, montrés du doigt, parce qu'ils osent dire, en fait, ce qui est dans la société, dans le monde, dans les sciences, dans tout un tas de domaines, et donc, en fait, on n'aime pas les entendre, tout simplement. Alors oui, les faits suivent effectivement leurs prédictions. Alors rappel, en science, une prédiction, hein, c'est un ensemble de faisceaux de preuves qu'on extrapole, qu'on projette, pour tenter d'évaluer ce qui pourrait arriver, et toujours selon plusieurs scénarios. Hein, c'est pas Madame Irma devant une boule de cristal. Hein.
Ah, c'est pas ça, donc.
Voilà.
Donc il y a un vrai sens matérialiste et raisonné.
Ah, totalement. C'est-à-dire que, par exemple, sur une hypothèse, vous faites entre 5 et 6 scénarios possibles, ouais. Généralement. Et c'est sans doute, hein, ce qui est le plus inquiétant, c'est que, justement, ce qui se passe en ce moment, ça suit les scénarios les plus pessimistes. Alors, les fameuses gouttes d'eau, hein, comme certains les appellent, dans une appellation qui ne veut strictement rien dire, hein, c'est ces fameuses pluies diluviennes qui tombent en ce moment un peu partout dans le monde.
C'est des grosses gouttes et beaucoup quand même.
Ouais, voilà, c'est pour ça que la notion de goutte d'eau n'est pas très très bien venue. Alors par exemple, en Chine, hein, sur 4 provinces, il est tombé en 3 jours, ce qui tombe théoriquement en 1 an. Voilà. En Allemagne, c'est 6 mois de pluie qui sont tombés en 2 jours. Et cela, c'était bien dans les risques prévus, en fait, dans les 3 pires scénarios du GIEC depuis 1999. Voilà.
Oui, il faut bien compter un délai de 20 ans pour que les politiciens
Alors, je suis désolé, je vais faire un petit échange de casque, pardon.
Oui, c'est ce que j'allais te proposer, de tourner ton...
Voilà, parce que j'avais un petit peu le fil qui m'étranglait, et c'était pas terrible pour vous parler. Alors, c'est un phénomène, en fait, mécanique, hein, qui est simple, mais assez terrible. Le réchauffement des eaux, vous savez, de l'océan, hein, des océans, entraîne mécaniquement une évaporation plus importante des eaux de surface. Donc, plus vous avez d'évaporation, plus vous avez de...
Nuages.
Bravo, jusque-là vous suivez. Dans le même temps, ce réchauffement modifie les courants marins, qui donc eux-mêmes ont une incidence sur les vents. Eh oui, parce qu'en fait, les vents sont liés aux courants marins. Oui, c'est chiant, la planète, c'est un peu tout lié.
C'est ce qui d'ailleurs expliquait la grosse... comment on appelle ça ? Peut-être que je te grille, pardon.
Non, vas-y.
La grosse... la bulle de chaleur qu'il y a eu sur le Canada, etc.
Oui, et qu'on a eu sur la France récemment. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les courants aériens, en fait, se sont modifiés parce que les courants marins se sont aussi modifiés. Oui. Le Gulf Stream s'est ralenti, tout est lié, en fait. Les courants marins sont généralement ceux qui vont accélérer ou ralentir les mouvements d'air, de masse d'air. Voilà. Donc en fait, on a ces courants qui changent, et donc du coup, plus de nuages, ça veut dire plus d'eau. Et plus d'eau qui sont envoyées vers les terres. Voyez. Et donc, quand ça tombe, ça tombe violemment et fortement. D'ailleurs, j'ai une pensée aujourd'hui, hein, pour les gens des deux provinces chinoises qui ont déjà été touchées, parce qu'il y a un typhon qui arrive sur eux, là, en ce moment. Et le problème, c'est que ce typhon, les météorologues disent, c'est la première fois qu'il y a autant d'eau en suspens dans les nuages d'un typhon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà subi des pluies diluviennes qui étaient imprévues, entre guillemets. Je mets des guillemets parce qu'elles étaient prévues, je vous le rappelle, mais qui étaient donc pas attendues.
Oui, c'est ça. Enfin, on est rarement préparé à se prendre un an.
Voilà, exactement.
En un jour ou deux.
Et là, il y a un typhon qui arrive, qui lui aussi est beaucoup plus chargé que d'habitude, donc ça veut dire beaucoup plus de pluie. Et il y a aussi en Inde où la mousson commence à faire plus de morts que d'habitude parce que plus d'eau. Ouais. Et en fait, c'est ça qui se produit aujourd'hui. Alors, le vrai souci se situe donc dans le fait que nous n'avons pas freiné collectivement les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, au lieu de diminuer, hein, comme cela aurait dû être le cas, ces émissions, elles sont en constante augmentation et encore plus que l'on l'imaginait. Hein, le rapport de cette année, hein, qui est fait par, je crois, le truc de l'éco... De
l'énergie atomique.
Non, de l'énergie, tout simplement. C'est à l'ONU, mais c'est un gros groupement sur l'énergie, en fait, et ils disent, il n'y a jamais eu autant d'émissions de gaz, de CO2 que ces 5 dernières années. Alors qu'on est censé être rentré dans la COP 21. Et la COP 15, là, vous savez, où on avait signé un truc, on disait, il faut s'arrêter.
Ouais, il y a eu plein de COP.
Bref, nous n'avons pas pris collectivement conscience qu'il va nous falloir modifier, en fait, aussi nos lieux d'habitation et de vie, parce que c'est pas que diminuer les gaz à effet de serre. Alors oui, parce qu'il va y falloir mettre en place des solutions dans l'urgence. Parce que c'est tout le problème, hein, en fait. Quand on n'anticipe pas, après, il faut faire dans l'urgence. C'est un peu dommage. Alors soyons clairs, hein, des catastrophes, il y en aura d'autres. Je suis désolé de le dire comme ça, ça ne m'amuse pas, parce qu'en plus, moi j'habite Lyon, qui est une ville où passent deux fleuves, enfin une rivière et un fleuve, qui sera vraisemblablement une des villes touchées dans les quelques années à venir par ces excès d'eau, comme disent certains, mais en fait par cette eau qui tombe, tout simplement. Donc non, ça ne m'amuse pas de vous dire, il y aura d'autres événements de ce type-là, et ils seront de plus en plus violents, malheureusement, on le sait, il suffit de lire les rapports du GIEC, il suffit de lire les rapports des météorologues internationaux, et ils vous disent tous, en fait, là, on est vraiment dans la merde, voilà, je le dis comme je le pense. Alors, c'est pas que le début, hein, et même si on arrêtait d'ailleurs d'émettre tous les gaz à effet de serre, hein, aujourd'hui, et ben en fait, ça ne suffirait pas. Pourquoi ? Parce que comme on l'a déjà dit dans la causerie, je vous le rappelle, alors pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on a déjà fait des sujets dessus et que je ne vais pas tout reprendre. L'inertie étant très élevée, en fait, de l'atmosphère, on estime qu'il faut 30 ans pour que les effets de quelque chose se voient. C'est-à-dire que les effets d'une baisse des gaz à effet de serre ne seront visibles qu'au bout de 30 ans. Soyons clairs, hein. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut rien faire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça veut bien dire qu'il va falloir, dans tous les cas, gérer les merdes à venir sur les 30 ans à venir. Voilà.
Et puis ça sous-entend surtout que plus tard on s'y prendra, ah bah et plus on va ramasser dans la gueule, parce que là ça veut dire qu'aujourd'hui on est touché, on va dire, par ce qui s'est fait il y a...
En 1990.
90.
Voilà.
Donc en sachant que depuis 90 ça n'a jamais baissé.
Bah ça va faire que augmenter.
Ça ne fait qu'augmenter, donc évidemment plus tard on s'y prendra et... Pire ce sera, si on peut hiérarchiser.
Eh ben oui, parce que c'est un peu comme sortir du nucléaire, en fait. On aura quand même, si on sort du nucléaire, à gérer les déchets, le démantèlement des centrales. Bah, c'est pareil. Là, si on arrêtait tous les gaz à effet de serre, bah, faudrait quand même bien gérer pendant 30 ans les effets de ce qu'on a balancé. Donc, nous allons devoir apprendre à gérer les choses, à prévoir et surtout à construire autrement. Bah oui, parce que c'est ça le problème. Par exemple, pour les pluies, il va falloir libérer les fleuves et les rivières. Oui, il va falloir prévoir des zones où l'eau pourra s'étendre sans engloutir des villes. En gros, il va falloir revenir à un état plus naturel, mais ça n'existe pas réellement, mais un état précédent des fleuves et des rivières, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se crée des espaces où on se dit, bon, bah là, si ça déborde, c'est pas grave, mais au moins, ça va absorber l'eau et ça évitera que la ville qui est à 50 ou 100 km plus bas soit totalement submergée. Voilà. Il va aussi falloir construire des canaux. Oui, oui, des canaux qui seront vides, hein, la plupart du temps, et les entretenir. Alors ça, les politiques, ils aiment pas, hein, construire un truc qui sert à rien et qu'il faut entretenir, mais pourtant, ça sert. Parce que ces canaux, ils vont servir exceptionnellement, mais ils vont servir le jour où vous aurez beaucoup d'eau pour l'évacuer rapidement et éviter que les métropoles surpeuplées se retrouvent couverte de flotte, tout simplement. Au Japon et à Taïwan, les scientifiques et architectes proposent de surélever les immeubles en sacrifiant les deux premiers étages pour en faire des pilotis. C'est vrai, en fait, ils disent, il faut qu'on prenne les gens qui habitent aujourd'hui au niveau des trottoirs, qu'on leur dise, ben non, en fait, on va vous reloger plus haut, ou dans d'autres immeubles qu'on va construire, évidemment, enfin, ouais, c'est toujours le même problème, mais on va les vous reloger ailleurs, et on va casser, en fait, le bas pour faire des pilotis, parce que ben, y a des villes qui sont inondées tous les deux ans. Et où l'eau met des fois 3 à 4 mois à s'évacuer totalement de la ville. Et ça, ça fait bah, tout un tas de problèmes, de maladies, de moustiques. Pour peu que vous soyez dans une région où il y a la dengue, par exemple, vous pouvez avoir une épidémie de dengue ou de Zika. Donc en fait, voilà, c'est pas juste l'eau, hein, c'est tout ce que ça entraîne derrière. Donc de la même façon, abaisser l'artificialisation des sols, c'est une urgence. Il est temps de rendre la terre accessible. Alors par exemple, ami de la métropole lyonnaise, tu n'es pas obligé...
Ouais, des fonctions dans...
Ouais, c'est un peu ironique. tu n'es pas obligé, par exemple, de dire « je vais refaire des trottoirs et des pistes cyclables en rajoutant encore et encore et encore du béton ». Tu peux aussi te dire que maintenant, on pourrait ouvrir les trottoirs et mettre des arbres, par exemple, tous les 5 mètres. De façon à ce qu'en fait, quand il pleut, eh ben, la terre absorbe. C'est bête, hein. Tu vas voir, c'est toi qui aimes la nature, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est des exemples comme ça, en réalité. C'est-à-dire que, il y a des scientifiques qui disent, mais c'est pas très compliqué, en plus. On n'est pas en train de parler d'une révolution totale de l'urbanisme. C'est juste réfléchir. Bref, à force d'attendre, cela va finir par nous coûter plus cher que ce qu'on n'avait pas attendu. Et c'est ce qui est paradoxal. Alors que tout était défini, hein, depuis des années, le capitalisme a continué tranquillement sa course. Les gouvernants ont tempéré par des beaux discours. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Et voilà, et nous sommes aujourd'hui Ben dans la merde, tout simplement. Alors c'est pas en parlant, en plantant trois arbres hein, qu'on évitera les catastrophes à venir. Hein. C'est clair, ça peut aider, mais ça va pas. C'est pas comme ça qu'on va l'éviter. Alors ça va demander en fait d'un côté de baisser réellement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de nous lancer dans un grand plan de réflexion sur l'urbanisation, sur nos méthodes, sur la façon dont nous contrôlons les fleuves, sur notre capacité à anticiper les risques d'incendie, etc., etc., etc. Et là, la technique, elle peut aider aussi. Hein. Je suis pas en train de dire la technique. C'est le mal et la nature c'est le bien, c'est pas tout ce que je vous dis. Par exemple, en Espagne, aujourd'hui, on surveille les forêts avec des capteurs qui sont reliés par un système de Bluetooth, je crois, de mémoire, ou de Wi-Fi, je sais plus, et qui permettent en fait d'anticiper les feux. C'est-à-dire quand un feu démarre, bah, le capteur, il vous prévient 8 heures avant que l'être humain le voie. C'est 8 heures de gagné, ça fait beaucoup sur un feu. Hein, quand, oui. D'accord, voilà. Vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais qui fonctionnent. Donc voilà, on peut aussi penser à des choses comme ça. Et cela ne sera possible que si nous regardons en face la situation actuelle et si nous arrêtons de croire que le changement climatique est devant nous. Car nous sommes en plein dedans, en fait, en réalité. Et ça fait quand même 20 ans hein, qu'on nous dit qu'il nous reste 10 ans pour changer les choses. Il n'y aurait pas un petit souci, là, 20 ans, 10 ans, enfin bref. Et n'allez pas croire que cela me rende spécialement pessimiste. Eh ben non. C'est pas parce que les faits sont là, hein, parce que les faits, c'est les faits, hein, donc une fois qu'on les a, on les a. C'est pas parce que les catastrophes arrivent que je vais abandonner mes convictions, que je vais me replier sur moi et attendre que ça passe. Au contraire, c'est même maintenant que l'entraide, la collaboration internationale, l'abolition des frontières, le fait de se voir comme une humanité unie et unique prend concrètement tout son sens. Alors moi, je vous le dis, bah, y a plus qu'à. Voilà.
Ben oui, et en même temps, enfin, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il va falloir peut-être cesser de penser qu'on peut continuer comme ça, avec une logique sociale et économique qui pousse à toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce que ça va en contradiction absolue avec le fait de « wow, faut se poser, faut réfléchir, donner un sens finalement autre que celui de faire du bénéf. »
C'est ça, sortir de l'argent un peu.
Mais ouais, non, mais ce qui fait qu'en fait, c'est tout le problème, c'est que quand on... certains ou certaines peuvent appeler à moraliser le capitalisme ou le rendre plus vert ou je sais pas quoi, c'est une fausse route en fait, je pense fondamentalement que c'est une fausse route et que encore une fois là aussi, enfin t'as complètement raison sur le fait qu'il faut arrêter de se voir juste à l'aune de nos petites frontières, de nos petits pays, parce que quand c'est la merde, c'est la merde. Et que ça nécessite aussi, il y a les inondations, les incendies, etc., les périodes de fortes canicules, etc., mais il y a aussi le fait que il y a des gens qui vont devoir partir de là où ils sont.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est global.
Ce qui arrive déjà. Qui va être,
oui, oui. Il y a aujourd'hui à peu près 200 millions de réfugiés climatiques. Hein, c'est ce qu'on estime. C'est-à-dire des gens qui sont obligés de bouger parce que soit il fait trop chaud où ils sont, soit il y a des grandes sécheresses, soit il y a des inondations. Donc voilà. Donc on le sait. Hein, c'est déjà le cas aujourd'hui. D'après plusieurs rapports de l'ONU, on pourrait monter à 500 voire 800 millions de réfugiés climatiques dans le monde, donc c'est assez énorme. Mais en plus, c'est un problème qui est global, parce que faut pas rêver, hein, c'est pas parce que dans votre pays vous, ça va être tout beau, tout propre, tout vert que l'atmosphère va s'arrêter aux frontières. Ça marche qu'avec Nicolas Sarkozy et les nuages qui s'arrêtent aux frontières, oui, mais ça. Dans la vraie vie ça n'existe pas.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le fait de délocaliser les industries polluantes ailleurs,
bah, ça changera rien.
Ça nous reviendra aussi dans la gueule, et qu'il faut aussi assumer, je pense, d'une certaine manière le fait d'avoir des industries,
c'est ça.
Et qu'il faut bosser à les améliorer, parce que ça aussi les industriels ils partent dans plein de pays où finalement bah, la législation elle est vachement moins regardante, donc finalement ils ont absolument pas besoin de revoir leur logique de production, etc., etc. Donc ils continuent de chier dans la colle comme depuis le fond depuis
j'aime
des
bien
années
cette
pardon mais et ce qui fait que oui, en fait, à un moment donné il faut arrêter de fermer les yeux, arrêter de regarder le monde à l'échelle de son pays, enfin ouais, et aller, je pense, dans des solutions radicales ne veut pas dire
à la racine
violente,
non et c'est ça, et
c'est aller à la racine.
Et vraiment, encore une fois, moi je vous encourage à lire, je vous l'ai déjà dit dans l'émission, il y a plein de scientifiques qui signent des tribunes internationales pour dire qu'en fait, la première chose qui aujourd'hui pourrit la planète, c'est le capitalisme. Et la deuxième chose qui le pourrit, c'est les frontières. Et en fait, je pense qu'ils ont raison. C'est que tant qu'on ne se verra pas comme une humanité unie et unique, encore une fois, parce qu'on est un animal unique hein, sur cette planète, qu'on le veuille ou non, et ben à un moment donné, en fait, on passera à côté des choses. Et je pense que oui, il est temps, pas de faire du GIEC et des compagnies comme ça, parce qu'ils font des rapports, mais de passer en fait à de la politique concrète. Et c'est pas du GIEC, démagogique, hein, c'est juste eux, ils font le rapport.
Oui, oui,
après,
oui.
C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et passer à des politiques concrètes et penser à l'échelle internationale et pas uniquement nationale. Mais ça veut dire aussi partager les richesses. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on fait à bouffer pour 12 milliards d'êtres humains sur cette planète et pourtant, il y en a un milliard qui crève la dalle. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, ben, on peut faire en sorte que chacun ait un niveau de vie acceptable et que ce sont bien des choix politiques. Et tout ça, c'est des choix politiques. Donc, ça nous regarde tous. Et c'est que si on s'y met tous, en fait, qu'on pourra faire changer et basculer les choses. Et moi, là, j'ai trop parlé, je me dis, il est temps de danser, donc on va lancer la musique, ça va être cool. Toi, tu es de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Voilà, voilà. Et c'était Agnès avec 24 Hours.
Yeah,
je
ne
sais
right.
pas si je l'ai bien bien dit, mais moi je suis nul en anglais. Alors du coup, c'est Jean-Yves qui va prendre la suite. Et Jean-Yves, il avait envie de vous parler d'un documentaire. Mais là, il est parti fermer la porte. Je vous raconte toute la vie de la causerie. Et donc, il ne peut pas vous parler tout de suite. Ah, ça y est, bah, c'est parti.
Est-ce que tu peux... Ok. Voilà. Oui, tout à fait, je suis là.
Ça marche.
Presque. Alors oui, ce soir je vais vous parler, c'est une invitation à regarder donc un doc, hein, que je vous propose comme tu le disais, et ce doc c'est À visage dévoilé, le combat de Massi Alinjad, disponible gratuitement sur arte.tv. Alors un petit mot d'abord, hein, sur la réalisation. Alors c'est un doc réalisé par Naïd Persons Sarvestani, né en Iran, qui a pu obtenir l'asile politique en Suède juste après la révolution islamique et la mort de son frère. Hein. Parce que oui, pour rappel, il fait rarement très bon en fait d'être militant de gauche ou militante de gauche quand une théocratie se met en place, même si vous avez aidé à virer celui que vous aviez en ennemi commun. Donc, au début des années 2000, Naïd Persons Sarvestani retourne en fait en Iran dénoncer l'hypocrisie du gouvernement à travers un doc, derrière le voile la prostitution, qui était en fait un portrait documentaire de deux jeunes prostituées téhéranaises. Le film Coup de poing, lui, vaut une reconnaissance internationale, notamment au travers de plusieurs festivals, mais elle a été arrêtée évidemment par le pouvoir, par les autorités, elle a été relâchée pour avoir, selon leurs mots, porté la honte sur le pays. Et la documentariste se lance de plus belle dans son réquisitoire. Et en 2007, elle attaque la polygamie qui a lieu en Iran avec un doc qui s'appelle « Quatre épouses et un homme ». Bon, évidemment, interdit de diffusion dans le pays et contraint d'être monté en Suède. Le documentaire réaffirme la détermination en fait de la réalisatrice. Hein, elle est vraiment déterre. cette réalisatrice a d'autres documentaires à son actif. My Mother, a Persian Princess. Un autre qui s'appelle The End of Exile. Et The Last Day of Life. Ou encore The Queen and I. Et évidemment, celui dont je vais vous parler ce soir, à savoir donc À visage dévoilé, le combat de Massi Alinjad. Et justement, donc,
Alinjad, je crois.
Alinjad, oui, c'est vrai, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Je suis pas très bon en persan. La réalisatrice, en fait, elle a souhaité rencontrer justement Massi Alinjad aux États-Unis. En fait, de ses premières révoltes à ses investigations, ses victoires et ses colères, en fait, ce film, en forme d'hommage, retrace le parcours de cette militante. On y découvre, hein, effectivement, les premières rébellions de Massi Alinjad, qui, dès l'adolescence, rejette le port obligatoire du voile. Elle devient journaliste. Et on découvre dans ce doc les positions qu'elle avait et assumait en face des dirigeants dignitaires politico-religieux iraniens. Il y a une scène qui est absolument magnifique, c'est lorsqu'elle demande à un dignitaire, un mollah, pourquoi les femmes n'ont pas le droit de chanter. Oui, parce qu'en Iran, en fait, sauf si leurs voix sont couvertes par des voix masculines, les femmes n'ont pas le droit de chanter. Et forcément, le mec lui dit un truc du genre « c'est la volonté de Dieu », parce que tout est la volonté de Dieu, n'est-ce pas ?
C'est toujours comme ça.
Oui, c'est ça.
Je sais pas pourquoi on remet en question la volonté de ce gars qui n'existe pas, mais en tout cas, il dit toujours des trucs.
C'est exactement ça. Et là, en fait, elle accueille sa réponse et elle se met à chanter face à lui. Un chant magnifique, et c'est un hommage à l'Iran, etc. Et c'est juste magnifique et juste... plein de courage, quoi. Parce que là, elle est vraiment face à un dignitaire politique, quoi.
Alors, c'est marrant parce que les mollahs iraniens, ils détestent les orthodoxes juifs, mais ils font pareil avec les femmes. Parce que ces orthodoxes juifs, c'est interdit de chanter pour les femmes aussi.
Ah, mais oui.
Et donc, c'est drôle comme il y a quand même une certaine unicité de la bêtise.
C'est ça. C'est exactement ça. Ils ont une convergence des luttes aussi. Hein. Oh là, je suis méchant. Donc, Massi Alinjad, en fait, elle fuit l'Iran en 2009 et elle continue son militantisme contre la théocratie iranienne et contre la collaboration aussi des différents pays du monde, en fait, tels les USA, des pays européens, etc., etc. En mai 2014, en fait, elle publie une photo d'elle, cheveux au vent, et des Iraniens...
Cheveux. Pas chevaux.
J'ai dit chevaux ?
Oui, chevaux.
C'est vrai, pardon. Cheveux au vent, pardon. Et des Iraniennes qui reproduisent ce geste interdit, rappelons-le, lui envoient en fait des photos et des vidéos via les réseaux. Et voilà en fait la naissance du mouvement, si on peut l'appeler comme ça. Je suis très mauvais en anglais. My Stealthy freedom, c'est-à-dire en français ma liberté furtive. Bah oui, parce que c'est entre enfin c'est oui, c'est très rapide, tu l'enlèves, tu prends une photo, mais après tu faudra que tu le remettes si tu veux bouger ailleurs. Donc comme le précise Messi, pour elle en fait, il s'agit absolument pas d'une guerre contre le hijab. Le but pour elle en fait, c'est de pouvoir choisir si on veut ou non se couvrir d'un voile en fait. Et elle le dit, hein, l'Iran est pour ma mère et moi. Ma mère veut porter un voile, je ne veux pas porter de voile. L'Iran finalement devrait être pour nous deux. C'est tout ce qu'elle dit en fait. Hein.
Elle appelle à une sécularisation du religieux.
C'est exactement ça. En mai 2017, hein, bah, Mahsa Amini-Nejad en fait lance le mot dièse, hashtag White Wednesday, le mercredi blanc, hein, pour que les femmes puissent s'afficher librement sur les réseaux sociaux en partageant avec le monde entier leur liberté retrouvée. Et il faut savoir que c'est suivi, le 27 décembre 2017, il y a Vida Mohaved, une Iranienne, hein, qui monte sur un coffret électrique dans le centre de Téhéran avec son voile blanc, le White Wednesday, il vient de là, white, blanc, le voile blanc accroché au bout d'un bâton de bois. Alors, évidemment, elle est arrêtée par la police des mœurs, et on est sans nouvelles d'elle pendant un bon mois, jusqu'en janvier 2018, et elle sera l'une des premières à participer, mais ne sera pas la dernière non plus, et elle ne sera pas non plus la dernière à être emprisonnée par la théocratie iranienne. جوانه میزنم به روی زخم بر تنم فقط به حکم بودنم که من زنم 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 چو هم صدا شویم و با به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری Alors juste cette petite interlude musicale, c'est juste parce que c'est une chanson que moi j'ai découverte dans ce reportage, et c'est un hymne féministe qui appelle à une société qui soit égalitaire, c'est-à-dire où les femmes ont autant de liberté que les hommes, où il n'y aura plus non plus de cailloux pour lapider, où il n'y aura plus de cordes pour pendre, et dans le doc on voit des féministes le chanter dans le métro, enfin c'est vraiment très très beau, et c'est vraiment voilà. Hein, l'Iran n'est pas peuplé de gens qui sont des soutiens à la théocratie, ne l'oublions jamais. Donc dans le doc, hein, on en revient toujours à ce doc, eh bien on voit donc aussi le lien entre Mahsa Amini-Nejad et tous celles et tous ceux en fait qui la suivent, qui la soutiennent, qui lui envoient des images depuis l'Iran justement. C'est de là qu'on trouve cette magnifique chanson. Bah pour nourrir cette lutte en fait pour la liberté, pour le droit de choisir et pour une égalité en fait entre les mecs et les meufs quoi et les femmes. Et on voit aussi évidemment, hein, il n'y a pas que ses soutiens qui lui envoient de jolies photos et de jolies vidéos surtout. Ben justement donc toutes celles et tous ceux qui la détestent, hein, qui luttent contre elle et contre les idées qu'elle porte et qu'elle porte toutes et tous. Et ben, ils sont capables d'aller assez loin, etc., etc., à se foutre de leur gueule. Enfin, c'est assez méprisable.
Puis on sait qu'en plus, Internet a une tendance à amplifier la facilité à faire. Donc voilà, ça amplifie pas la pensée des gens.
Non, c'est
la facilité à le faire.
C'est ça. On suit aussi Mahsa dans ses activités des télévisuelles, dans un débat aussi qui est organisé par une télé turque via les réseaux. Dans lequel elle est face à un dignitaire en fait, un dignitaire non. Alors c'est pas un dignitaire, c'est un prof de je sais plus quoi ou un pseudo. Non, je sais même pas, c'est pas un pseudo journaliste, mais c'est un pseudo prof de je sais pas quoi. Et en fait, le mec, c'est juste un soutien de la théocratie iranienne. Donc voilà, c'est enfin vraiment c'est hyper intéressant. Et ce qui est justement aussi intéressant, c'est que si elle est le personnage central en fait, on peut aussi voir les mouvements de protestation en Iran et qui ne sont pas uniquement liés à cette question du port du voile, de cette obligation de porter le voile justement en fait on vous revoit des images des manifs de 2009 hein, qui on peut se le rappeler, ça a fait plus de 150 morts, des milliers d'arrestations, de tortures et des centaines de viols. On voit aussi des images des soulèvements de 2019 et 2020, là aussi hein, faut se le rappeler, plus de 1500 morts, des milliers d'arrestations. Bref, on voit l'Iran de l'intérieur, en fait. Comme, par exemple, ces bastions de la police des mœurs pour quelques skateuses. Parce que, bah oui, on n'a pas le droit de faire du skate quand on est une meuf, on n'a pas le droit de faire du vélo non plus, enfin bref. Donc voilà. On voit aussi les familles de personnes assassinées. On voit des vidéos de prisonniers condamnés à mort qui donnent des détails, en fait, sur l'intérieur des prisons, sur comment ça se passe, en fait, un jugement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui l'explique très bien. Enfin, t'as les yeux avec un truc devant les yeux et tu dois signer un papier et tu sais pas ce que tu signes. En fait, c'est juste la reconnaissance que tu vas crever. Voilà. Donc voilà. Il y a aussi ses liens avec sa famille. Famille qui est restée en Iran, qui subit évidemment, vous imaginez bien, des pressions de dingue. Et d'ailleurs, certains seront arrêtés et sont encore aujourd'hui en tôle. Donc voilà, hein, c'est vraiment, enfin c'est moi c'est ça que j'ai bien aimé aussi justement, c'est que c'est elle, mais
c'est
au travers mais travers d'elle en fait, il y a plein de choses qui sont abordées et plein de choses qui sont montrées quoi. Donc je vous le rappelle, ce doc, je vous conseille évidemment de le regarder et je vous conseille aussi de suivre le mouvement My Still See Freedom via les réseaux sociaux commerciaux ou via le site mystillseefreedom.org. On vous mettra tout ça sur le blog, évidemment. Alors, je vais quand même le faire parce qu'on ne peut pas dire que tout est parfait, parce que rien n'est parfait dans ce bas monde, n'est-ce pas, ni ailleurs. En fait, on peut évidemment reprocher des choses en fait à Mahsi Ahmadinejad. Parce qu'encore une fois, elle n'est ni sainte ni pure, hein, parce que la pureté n'existe que dans les livres et dans les théories, mais dans la vraie vie, en fait, elle est humaine. Mais là, ça dépasse le doc. Hein, enfin, c'est vraiment là, c'est un avis très perso. Comme par exemple la justification, enfin, qu'elle fera de l'assassinat en janvier 2020, par exemple, du général iranien Qassem Soleimani par l'administration Trump, affirmant qu'il était détesté de la population iranienne et que son assassinat pourrait favoriser le retour au calme. On peut aussi interroger son boulot pour un média plutôt la voix de la Maison Blanche, mais en même temps on a plein de journalistes qui travaillent aussi pour France Culture, France Info, etc. Enfin, je veux dire, voilà, faut aussi recontextualiser certaines choses, même si les financements sont pas forcément les mêmes. Enfin,
bref. On peut faire un parallèle avec les gens qui vont travailler sur RT.
Oui.
Alors c'est d'un autre côté, mais quand on travaille sur une chaîne qui est entièrement financée par un pouvoir politique, bon bah voilà, on sait.
Oui, c'est ça. Reste que bon, hein, là aussi, on peut se poser la question de quel a été l'accueil en fait par les gens plutôt de gauche, dirons-nous, les révolutionnaires et autres rebelles, que sais-je encore. Et je sais aussi d'un autre côté que face à un pouvoir religieux sanguinaire qui n'hésite absolument pas à flinguer, à torturer, à violer, ben en fait les gentillesses ne suffisent pas et les bons sentiments non plus en fait. Hein, et pourtant je pense que encore une fois, il y a plein de gens qui aimeraient que ça se passe sans verser de sang. Et moi je pense le premier. Hein, parce que on sait aussi que pour un général mort du pouvoir iranien, c'est des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes qui sont mortes. Alors c'est pas eu pour eux, parce que franchement c'est pas du tout là-dedans que je me situe, mais c'est juste que oui. Voilà. Donc ces positions, voilà, hein, c'est à critiquer aussi, parce qu'encore une fois, là aussi, hein, personne n'est parfait, quoi. Moi, si vous me trouvez des militants et des militantes parfaits, ça...
Ouais, et puis c'est compliqué aussi de juger ça de notre point de vue, où on habite dans des pays où on n'est quand même pas non plus sous une dictature sanguinaire et violente, où on peut parler de répression en France, il n'y a pas de souci des manifs ou autres. On n'a quand même pas encore, heureusement, vu des gens être tués à bout portant par la police ou par l'armée. Donc c'est compliqué après nous placer en un peu en moralisateur en disant, et c'est pas du tout comme ça, mais on peut effectivement interroger certaines positions. Oui. Après, on peut aussi se mettre un peu en empathie avec ce qu'elle a vécu, et ce que vit sa famille, et ce que vivent beaucoup de gens, et se dire, oui, ok, comment on réagirait? Est-ce qu'on garderait la tête froide? Est-ce qu'on ne serait pas, nous aussi, dans l'excès? Enfin, je veux dire, voilà, oui, il y a aussi ces choses-là à prendre en compte. Moi, je trouve que c'est toujours un peu compliqué et voilà, d'avoir un avis tranché. Moi, j'ai pu côtoyer des réfugiés qui venaient d'Iran, et c'est des gens adorables, hein, mais par contre, c'est vrai que dès qu'ils parlent du régime des mollahs, bon, bah, vous dites, ouais, c'est violent. Mais après, quand vous réfléchissez.
En même temps, oui, t'as pas de vie, quoi.
C'est logique.
Tu n'existes pas, voilà, etc. C'est ta vie est régie, quoi.
C'est-à-dire que vu de mon petit point de vue d'occidental, bien nourri et qui a pas trop de problèmes, globalement, oui, je peux trouver ça violent. Après, c'est vrai que si on se projette, on se dit, oui, alors à sa place, est-ce que j'aurais pas à peu près la même façon de voir les choses? C'est la complexité. Ouais. C'est tout ça que. Et je suis d'accord avec toi, il faut amener de la critique, il faut réfléchir, il faut penser certains positionnements. Après, moi, je trouve que des fois, il y a des condamnations un peu rapides, un peu simplistes qui sont faites au nom de la pureté militante ou au nom de certaines choses qui, du coup, vont éloigner ces personnes de des milieux plutôt progressistes et émancipateurs parce qu'elles en auront marre, justement, qu'on leur donne des leçons vu de notre cul assis sur une chaise où, finalement, on peut se permettre d'aller sur Facebook pour critiquer. On peut
même être là à Radio Canu. Radio Canu n'existerait pas dans une démocratie, dans un pouvoir autoritaire. Hein, aller en parler aux Russes, etc.
Oui, et c'est pour ça, ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi qu'on apprenne à prendre ce pas de recul et à arrêter d'attendre des militants de ces pays qui fuient d'être des espèces de parangons de pureté, tout ça. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, il y en a marre de l'effet Nelson Mandela. Vous savez, alors, vous voulez je vous dire pourquoi il disait ça, c'est que lui, il disait, en fait, Nelson Mandela, on avait effacé tout ce qui dérangeait dans sa vie pour en faire une espèce d'icône pure et saine. Et puis après, une fois qu'il est décédé, on s'est rendu compte que Nelson Mandela, comme tout le monde, il n'était pas parfait, il avait pris des positions de merde. Il avait eu des attitudes pas terribles avec certaines personnes. Eh bien, oui, parce qu'il était humain. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est que là, vous parlez à des humains, vous ne parlez pas des icônes. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent que leur souffrance. Et elle est déjà suffisamment importante pour qu'ils n'aient pas à se rajouter dessus. Des fois, des positionnements un peu mal tranchés, je dirais.
C'est ça. Et juste avant de passer à la musique, hein, juste une dernière petite info justement au sujet de Messi, Ahmadinejad. En fait, il faut savoir que le 13 juillet, donc il n'y a même pas 15 jours, le ministère américain de la justice a révélé un complot dans lequel 4 responsables du renseignement iranien et un 5e comparse prévoyaient juin 2020 d'enlever un journaliste, une journaliste, on ne sait pas trop, basée à New York ainsi qu'une personne au Royaume-Uni et 3 autres au Canada pour dissidence contre l'État iranien. Et en fait, Mahsa Ahmadinejad en fait a révélé que elle était l'une des cibles et les comploteurs en fait essayaient de l'attirer dans un pays tierce où un enlèvement était prévu. Toute similitude avec
d'autres choses connues,
genre un journaliste qui est appelé dans une ambassade en Turquie pour être démembré et tout ça. Ben oui, en fait, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Donc je vous rappelle quand même le titre de ce documentaire. Il est aussi sur YouTube, vous tapez à visage dévoilé le combat de Mahsa Ahmadinejad, et ben vous le trouverez comme sur arte.tv. Et bien on passe tout de suite à la radio.
Alors à la radio on y est,
à la musique je veux bien.
Se couvre des barres rouges, collées sur les rochers.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de la Causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. On vient de s'écouter Winter is Over de Nathalie Nour et de Xov. X-O-V.
Ouais.
Voilà.
C'était super beau.
Ben, c'était pareil, c'est à la fin du document en terre que vous regarderez, évidemment.
Et c'est un vieux titre, je crois, c'est une reprise.
Ouais, hein. C'est une reprise en fait. Effectivement, j'ai recherché, il y a plusieurs versions et donc voilà. Eh ben, c'est Fab qui prend la suite, si je ne me trompe pas.
C'est moi, et pardon pour le bruit du micro.
C'est pas grave.
C'est un peu compliqué.
Bon, bah alors, toi, tu veux... Ah, bah, tu nous parles d'un petit magazine.
Oui, alors voilà, parce que j'avais envie... vous savez, dans la causerie, on parle souvent science, et je vous avais présenté un magazine de science il y a quelques temps, puis il y en a un nouveau qui vient de sortir, et j'avais envie de vous le présenter. Alors, ce nouveau magazine, c'est Epsilon. Voilà, c'est une revue pour être curieux. Alors, en fait, au départ, les créateurs, ils voulaient qu'on dise Epsilon, et ils avaient mis un signe infini, c'est à la place du O pour faire le côté scientifique et puis bon infini, infiniment grand, infiniment petit, hein, de l'epsilon. Et en fait, bon bah tout le monde s'est mis à dire epsilon. Alors je pense que ça va rester epsilon. Hein. Voilà. Donc il est né au départ d'une dizaine de journalistes du magazine Science et Vie, hein, quand celui-ci a été racheté et que sa ligne éditoriale a été réorientée vers du sensationnalisme, des infos fausses et de la pseudo-science. Alors vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui de magazines qui sont détruits comme ça par des financiers qui récupèrent les noms et qui veulent en faire autre chose que ce qu'il était au départ. Donc moi, je vous conseille vraiment de ne plus lire Science et Vie. Et il vient donc en fait de naître, hein, ce magazine. Il publie son second numéro ce mois-ci. Et oui, parce qu'en science, ça ne s'arrête pas entre juillet et août. Voilà. L'idée d'une grande partie de celles et ceux qui sont partis de l'ancienne Science et Vie, c'est de créer un nouveau magazine, mais surtout de ne pas refaire un Science et Vie justement, et de faire en fait des choses en plus. Et pour ça, ils se sont dotés d'outils intéressants. Alors au départ, ils ont déjà posé une charte morale et une charte éthique, qui en fait, ils se sont rendus compte que la perte d'indépendance, hein, de leur ancien magazine, où le poids finalement de l'actionnaire était devenu trop grand, ils ont décidé de poser les bases d'un magazine où l'indépendance journalistique est respectée et surtout primordiale, centrale dans le magazine, et au final où le magazine appartient au fond à ceux qui le font plus qu'à l'actionnaire. Donc la charte, elle est consultable sur leur site, hein, c'est epsilon.com, voilà, je vous mettrai le site sur le blog. Elle contient par exemple un rappel de ce qu'est ce titre. Alors je vais lire, hein, tout simplement. Le titre est un magazine d'actualité scientifique. Il raconte comment les avancées les plus récentes de la science éclairent, révèlent et transforment le monde. Le titre n'a aucun parti pris politique, religieux ou métaphysique. Il a pour vocation de favoriser la réflexion du lecteur en lui offrant des informations scientifiques et en lui laissant le monopole de l'engagement et de l'opinion. Sans complaisance ni fatalisme, le titre vise à présenter le monde et la science sous un angle le plus objectif possible. Le contenu du titre est documenté, fouillé et vérifié et supervisé par la rédaction en chef qui en assure la qualité éditoriale, l'objectivité et la fiabilité à travers la vérification et la mise en avant, dès que possible, de ses sources et références. références. Voilà, donc c'est quand même assez ambitieux, hein, faut pas non plus se mentir. Et donc, du coup, ils ont aussi rappelé que le titre est attaché à l'ensemble des principes contenus dans la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes de Munich de 1971, dont la pérennité est indispensable à l'indépendance éditoriale et qui constitue le socle déontologique de la profession de journaliste. Ces principes s'appliquent à la rédaction, à la réalisation de tous les contenus éditoriaux produits par la rédaction, quel que soit leur support ou diffusion. Voilà, donc on voit que, je vous laisse découvrir le reste de la charte, mais ils sont quand même plutôt ambitieux sur le côté magazine, ouvert, indépendant. Voilà, on sent qu'il y a eu une vraie cassure avec leur ancien média, et c'est très bien en fait. Parce que c'est, voilà.
Bah, c'est pas nous, Radio Canu, qui essayons d'être indépendants de tout.
C'est mal d'être indépendant. voilà. Donc vous l'aurez compris, Epsilon, hein, moi je veux dire Epsilon, parce que j'aime bien. Bah, bon, Epsilon, est un magazine de vulgarisation scientifique. Hein, je vous avais présenté Pour la Science, qui est plus ardu parfois à lire que Epsilon.
Ouais, justement,
hein, voilà.
C'est ce que j'allais te demander.
Alors Pour la Science, c'est un peu le niveau au-dessus, je dirais, okay. Dans le sens où ça fouille plus les choses. Là, Epsilon, c'est plutôt...
D'avoir des bases de quelque chose, d'appréhender les bases des choses.
Exactement. Alors, dites-vous que, en fait, c'est complémentaire.
Ouais.
Voilà. Mais pour débuter, hein, pour moi, et même si vous n'avez aucune base scientifique, bah, Epsilon, c'est parfait. Voilà. Vraiment, c'est un magazine qui, si un jour vous dites, tiens, j'ai envie de gratter un peu ce qu'est la science aujourd'hui, enfin les sciences, c'est hyper intéressant parce que c'est bien écrit. Les journalistes, hein, qui sont toutes et tous des passionnés, hein, sur les sujets qu'ils traitent, sauront en fait vous intéresser à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. C'est ça qui est hyper passionnant. Dans le premier numéro, par exemple, vous lirez beaucoup, enfin un très bon article sur la génétique, et vous voyagerez au-dessus des nuages de Jupiter. Voilà, vous voyez, c'est un petit grand écart, mais c'est très sympa. Vous comprendrez pourquoi les arbres sont plus complexes qu'on ne le pense et présentent des aspects génétiques assez étonnants. Chaque branche ayant son propre génome, par exemple.
Okay.
Ouais. Vous comprendrez comment des pays essayent de manipuler le climat aussi et pourquoi ce n'est pas aussi simple qu'on le dit, ni forcément une très bonne idée. Voilà, donc j'aime aussi beaucoup, hein, personnellement, la partie science amusante et étonnante, hein, qui est à la fin du magazine, qui vous apprendra qu'en fait, bordélique ou pas, vous ne serez pas plus efficace en étant moins bordélique. Voilà. Et que oui, définitivement, vous pouvez entretenir plus de 150 amitiés et relations sociales. Voilà, je vous laisserai découvrir pourquoi, hein, c'est vraiment passionnant. Bref, c'est vrai, c'est un magazine que je trouve passionnant, qui ouvre l'esprit, qui donne à réfléchir, mais aussi à rêver. Parce que oui, les sciences, c'est beau. En fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que bah ouais, les sciences, ça fait rêver. Quand d'un seul coup, vous avez dans le magazine plein de super belles photos, il est très très bien illustré. Et franchement, les nuages de Jupiter, c'est waouh. Ouais, je sais pas comment dire. Je pense que si Georges était là, il vous dirait waouh. Voilà.
Bon, intéressant.
Alors, voilà. Je mettrai juste un tout petit bémol sur les titres, personnellement, enfin les titres des articles. Moi, je trouve qu'ils sont ils n'ont pas trop perdu le côté titre coup de poing ou racoleur, vous savez, qu'on voit dans la presse.
Fait qu'on va cliquer dessus.
Voilà, ou putaclic, comme on dit sur Internet. Bon, c'est un peu dommage, mais je comprends aussi la démarche parce que c'est un nouveau magazine et qu'il faut qu'à un moment donné, ils aient des titres accrocheurs pour que les gens aient envie de l'acheter. C'est une sorte de paradoxe, en fait.
Ben oui, et puis j'ai envie de te dire, je ne sais pas que les journalistes, enfin, je veux dire, on a pas mal de gens qui peuvent faire des tracks dans des milieux militants qui vont faire pareil, en fait.
Oui, oui.
Déter et vénère, c'est aussi genre un appel d'offres, quoi.
Oui,
enfin,
c'est,
vois,
ça.
C'est un peu
c'est
les mots clés qui vont faire que tu vas ouvrir ou pas, ou lire le truc ou pas, quoi.
Ouais, et puis par exemple, sur le numéro 2, ils font leur une sur les trous noirs, et on sait que les trous noirs, c'est ce qui fascine beaucoup.
Ouais.
Et ben, encore une fois, c'est un magazine qui est indépendant, qui essaye de vivre sans trop de publicité. Leur budget, c'est 7% maximum par la publicité, le reste, c'est les achats. Donc on voit que voilà, il y a vraiment une envie d'exister. Et bon, effectivement, oui, ce petit côté-là m'a un petit peu déçu, mais pas le contenu. Je vous dis franchement, hors dehors des titres, le contenu, il est vraiment très très bon. J'ai lu le numéro 2 en partie aussi, il est très très bon aussi, je vous le conseille vraiment. Voilà. Alors Epsilon, hein, ou Epsilon, c'est 4,90€ chez votre marchand de journaux tous les mois. C'est un des moins chers des magazines. Mmh. Et je trouve ça hyper bien parce qu'ils y ont pensé, ils ont réfléchi. En fait, ils sont partis à l'envers. Ils ont dit, il faut faire un magazine accessible moins de 5€ et on se débrouille pour arriver à faire ça. Donc en fait, je trouvais que c'était très intéressant comme démarche et c'est pour rendre vraiment ça accessible au plus possible. Vous pouvez faire abonner toutes les médiathèques et votre médiathèque préférée pour pouvoir avoir votre magazine parce qu'après tout, bah, si vous n'avez pas les moyens, ce qui est possible, faites abonner la médiathèque à côté de chez vous parce qu'elle peut s'abonner, c'est un magazine, hein, officiel. Et c'est aussi sur abonnement, hein, sur le site epsilon.com. Et honnêtement, l'abonnement, je le trouve vraiment pas très cher. Alors, je dis ça, moi, de mon point de vue, hein, j'ai un salaire et tout. Mais je trouve que pour un magazine, bah, c'est un abonnement que je trouve assez abordable. Et franchement, ça vaut le coup. Voilà. Alors, donc, n'hésitez pas. Allez découvrir la science en vous marrant un peu. Parce qu'en plus, je trouve qu'ils ont une très bonne plume. Et parfois, ils sont très amusants. Voilà.
Ben, nickel. Et puis, on peut aussi rappeler qu'on peut faire des abonnements et qu'on se partage à deux ou trois.
Ouais, tout à fait.
Et qu'on peut partager aussi le blé qu'on y met.
Donc, je le redis, Epsilon, à Epsilon, voilà, dans tous les kiosques. Bon, n'hésitez pas.
Et ben nickel, on passe à la musique.
Oui, et il paraît qu'on en a une.
De l'orbite. Je trouvais ça, ma voix, un peu étrange de t'en parler de ces organes génitaux. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je n'ai qu'un clito. J'ai pas un truc énorme, un truc gigantesque qui pend entre mes cuisses et que devraient sucer toutes les mamans. Quelle injustice.
Retour dans la causerie au 102.2 sur radiocadu.org. Et oui, c'est la causerie. On est un petit peu à la bourre. Et là, vous venez d'entendre Guidré avec son super titre Tu as une bite. Bah oui, parce qu'elle a bien raison. Enfin, de le chanter. Mais c'est vrai que souvent, quand les hommes, ils ont une bite, ils sont chiants. Bon, moi, je trouve ça vrai. Bon, voilà. Bref, c'était Guy Drey, c'est son nouvel album. Faites-vous plaisir, chantons romantique au piano. Et voilà, et c'était tout ce qu'on aime à la causerie. Je vais donc maintenant vous parler des chemineurs, parce qu'on a une bonne nouvelle. Et oui, vous savez, les chemineurs, c'est ce squat de personnes mineures qui a été monté pour éviter qu'ils dorment dans la rue. Coucou la métropole de Lyon, ça va? Tu dors sur tes deux oreilles, tout va bien? Parce que t'es en train de laisser des gamins dans la rue. Hein, voilà. Surtout, c'est les vacances? Ok. Donc du coup, voilà. Donc les chemineurs, ils devaient passer en procès. Et bonne nouvelle, ils ont un avocat ou une avocate, je sais plus, qui a eu la bonne idée de plaider quelque chose qui a bien marché, c'est-à-dire le report du procès. Et donc c'est reporté au 1er octobre. Donc du coup, bah, ils ont un petit sursis et ça, c'est cool. Par contre, ils ont besoin d'un grand coup de main et de grands coups de main. Donc n'hésitez pas. Si vous passez vers les chemineurs, alors je sais plus l'adresse exacte, mais vous les trouverez sur Internet facilement. Donc voilà, et ben allez les aider. Ils ont besoin de plein de choses. Ils ont besoin aussi de gens pour faire de la présence, tout simplement, des fois, pour faire du soutien scolaire, pour apprendre de la musique, pour détendre un petit peu les gens. Oui, parce qu'alors, juste, amis, auditrices, auditeurs, ces enfants-là, ils vont pas partir en vacances, hein, vous l'aurez compris. Ils vont être obligés de rester là, eux. Donc voilà, bon, je pose ça comme ça. Donc voilà, et donc du coup, bah, si vous voulez les aider, bah, n'hésitez pas. Et nous, on vous le dit, on est très contents que le procès ait été reporté. Et puis, bah, on est très, très mécontents de voir que, bah, finalement... Gérard Collomb ou pas à la métropole, hein. Ça change pas grand chose pour les mineurs qui sont à la rue. Donc voilà, comme quoi hein, les espoirs politiques par les élections. Enfin bref, c'est un vaste débat tout ça. Je rends le micro à Jean-Yves, sinon il peut pas parler.
Ah non mais je demandais rien, hein. Tu as raison, cette... Enfin, un changement de pouvoir ne change pas grand chose dans la vie des gens.
Ouais, voilà.
Et qui plus est, quand ils sont mineurs, et même pas sans papes, mais réfugiés. Voilà.
Ouais, et puis alors, moi, je vais le dire, hein, qu'ils aient des papiers ou pas, c'est des enfants.
C'est ça.
Alors, même déjà, les adultes, ça me fait chier quand on les traite mal parce que souvent, parce qu'ils n'ont pas de papiers, et c'est déjà inadmissible. J'aime pas les frontières, j'aime pas les cartes d'identité. Bah alors, très honnêtement, là, en plus, quand c'est des gamins, je trouve ça vraiment odieux. Et voilà. Là, aujourd'hui, vous avez des enfants qui dorment dans des tentes, hein. On va être clair. Voilà où on en est. Hein. 21e siècle, Lyon, tout va bien.
C'est un pouvoir de gauche, dites donc.
Ouais, ouais.
Non, ça change tout.
Non, moi, ça me gonfle. Pardon.
Et bien voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà débordé de 23h. Et puis, ben,
mais une causerie qui déborde pas, est-ce vraiment une causerie?
Je te dirais que le jour où on a l'émission derrière nous, oui, ça sera.
Ben, on débordera plus parce qu'on sera gentil. Mais bon, pour l'instant, on n'a personne, donc on en profite.
Donc voilà, ben, nous, on va vous laisser. On va vous donner rendez-vous dimanche prochain, évidemment, comme tous les dimanches, 22h, 23h. Au 102.2 de la bande FM sur Radio Canu ou sur radiocanu.org, ouais. Partout ailleurs.
Il y a des émissions qui sont encore là, tout le monde n'est pas en vacances, donc profitez. Sinon, profitez des magnifiques bandes continues de Radio Canu. Voilà,
parce que
ouais, 30 ans de musique quand même, hein, dans
c'est
vos
ça.
Oreilles, c'est cool.
Et ben voilà, nous, on, comme dit, rendez-vous la semaine prochaine, on sera là encore un petit mois pour essayer de vous accompagner. Bah, le plus longtemps possible.
Bah oui. Non, après, on n'arrête pas, on fait juste une petite pause
oui.
Estivale.
On a droit quand même.
De temps en temps.
Bon, bah allez, on va donc se quitter. On va se quitter en musique avec Francesca Guccione.
Ouais.
Je t'ai bien dit.
Je crois que c'est ça, ouais.
Ouais, c'est sûr que c'est ça. On en a déjà passé un titre et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Et là, je vais vous passer en Liquid Stones.
Sur des pierres liquides.
C'est ça. Mmh. Eh bien, bonne écoute à vous, bonne fin de soirée, bonne semaine à venir, bon courage et à dimanche prochain.
Et peut-être même qu'il y aura eu le retour de quelqu'un dimanche prochain, vous verrez. Voilà. Des bisous, à la semaine prochaine.
Ciao.